Braveman, 17 novembre 1997 à Montevideo.
Ah bon? Je crois pas. On va voir à la fin, je dirais, ça m'a fait. Ouais. Alors, Shnei Shadayir, c'est Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui s'adresse au peuple juif. Il dit Shnei Shadayir ki Shnei Ofarim, ta poitrine, Shnei Shadayir Motamo, tes deux seins, ki Shnei Ofarim, sont comme deux fans, te omet tzviya, jumeau de la gazelle, Aroim, Bashoshanim, lorsqu'ils sont en train de paître, Bashoshanim, parmi les roses. Rashi dit, Shnei Shadayich al Shem Aluchot. On va essayer de voir. Alors, là, je nous dis 5 commandements. On parle des deux luchot abrit, 5 commandements. Shelzu, Vechamisha, Shelzu, Mechouvanim, Dibour, Keneged Dibour. C'est l'un Dibour en face de l'autre. Si vous regardez les 10 commandements, vous verrez. Que Anochi, Keneged Lotirzach. Alors on va essayer de voir ce que ça veut dire. Le premier des commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Meret Yitzray. Anochi, c'est moi, Hashem Elokecha, Asher Otseticha, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Ok. On appelle ça la mitzvah de Emouna. La mitzvah de Emouna, c'est le fait de relier l'idée qu'on peut avoir et qui est personnel à chacun de ce qu'il imagine être Dieu, au fait que c'est Dieu qui intervient dans le monde et qu'à travers l'histoire, les événements, tout ce qui s'y passe, on est obligé de voir la volonté divine. C'est-à-dire que la mitzvah d'Emouna, c'est pas seulement je crois en Dieu, c'est-à-dire que Dieu existe, mais je crois que c'est le Dieu qui existe qui m'a ordonné ce qui est écrit dans la Torah. Qui c'est ? Alors la référence, c'est celui qui nous a sorti d'Égypte. Ça, c'est le premier commandement. Ce qui est intéressant, c'est que Rashi dit que Negedot Irtsach, si tu regardes sur le deuxième table, tu verras que le premier commandement, c'est l'interdiction de tuer. Donc normalement, il doit y avoir non seulement un lien, mais il doit avoir la même idée qui est contenue dans les deux commandements. Et c'est ce qui est marqué dans le verset Teomet Sviya. Ce sont les jumeaux de la gazelle, c'est-à-dire que non seulement ils ont la même importance, mais ces deux commandements qui se ressemblent. Non. En quoi la mitzvah d'Emouna a un rapport, qui est une mitzvah positive, a un rapport avec l'interdiction, mitzvah négative, de l'otirtsar, tu ne tueras point. Rashi dit pourquoi. Sharotseach me maet et admut shel HaKadosh Baruch Hu. Alors on va essayer de comprendre, notamment ça veut dire Rotseach, celui qui tue l'assassin, me maet. Il rend plus petite. Il rapetissit. Il rend petit d'mout. C'est difficile à comprendre. D'mout, c'est ce que nous percevons, domé, à quoi ressemble le bon Dieu. Si tu es capable de tuer, c'est que tu es un petit bon Dieu. Si tu es incapable de tuer, c'est que tu en as un grand. Celui qui tue rend petit, d'mout, c'est l'image. L'image, ça veut dire l'idée qu'on peut avoir du bon Dieu. C'est difficile à comprendre. Tuer, c'est très méchant, c'est très mauvais. C'est une morale universelle, tout le monde comprend qu'il ne faut pas tuer. Même les animaux ne se tuent pas pour n'importe quoi. Ils tuent quand c'est nécessaire. Mais en tout cas, on ne voit pas quel est le rapport avec la Emouna et pourquoi, lorsque je tue quelqu'un, enfin pas moi, mais lorsqu'on tue quelqu'un, on est même maître de ta demande. On rend petite l'image de Dieu. On doit réfléchir normalement dans deux axes différents. Rendre petit l'image de Dieu, ça peut vouloir dire que on donne, on attribue à ce premier commandant de la Emouna une intervention ou une possibilité d'intervention divine qui est plus petite que celle qui existe vraiment. On va aller plus loin. Si je peux tuer, si je peux enlever la vie, c'est que Dieu n'intervient pas. Parce que le fait de pouvoir tuer un homme va à l'encontre de ce que nous pensons être ce qu'on appelle la Hashgacha. La Hashgacha, ça veut dire que Dieu s'occupe de chacun, il lui trace sa vie, il donne les conditions de vie. Si c'est le bon Dieu qui lui a donné sa vie, pourquoi est-ce que moi je peux l'enlever? Ça veut dire que la possibilité qu'a l'homme de pouvoir tuer, ça rend plus faible la possibilité qu'a l'homme d'être ma'amine, de croire. Parce que c'est deux notions qui sont contradictoires, qui sont antinomiques. D'un côté, chacun comprend, on va dire, c'est pas la balle qui tue, c'est le bon Dieu. Ta vie, elle dépend de lui. Mais de l'autre côté, elle dépend de soi-même, parce qu'on peut se tuer, et elle dépend de l'autre aussi. Arriver à conjuguer les deux choses, c'est quelque chose de difficile. Ça, c'est la première façon dont on pourrait comprendre que tout celui qui est Rotseach, lorsque tu commets un meurtre, tu affaiblis l'image divine, non seulement chez toi, parce que tu vois que le monde Dieu ne s'est pas du tout opposé, donc on ne voit pas ce ratson, cette volonté divine qui devrait gérer le monde, où est-ce qu'elle est. Donc je suis obligé de remettre en place l'Aïmouna. D'un autre côté, on a l'impression que si c'est si facile d'enlever la vie, alors c'est que c'est le dieu de Descartes, quelqu'un qui un jour a remonté l'horloge, mais l'horloge est remontée, il n'intervient plus. On s'étonne du pouvoir qu'a l'homme dans le fait qu'il puisse tuer. À partir du moment où on s'étonne du pouvoir qu'a l'homme, on s'étonne du non-pouvoir qu'exerce le bon Dieu. Parce que l'un va à l'encontre de l'autre. Si on me disait que je pouvais modifier toutes les lois de la nature, je dirais, ben c'est qu'il n'y a plus de bon Dieu, parce que je fais ce que je veux. Et là, j'arrive à modifier quelque chose de fondamental. D'être obligé de concilier les deux, ça s'appelle le Maët et Tadmout. rendre plus petit l'image qu'on a. Et si on se demande, et comment on arrive à concilier, bien, alors il y a deux sortes de personnages qui tuent. Il y a celui qui tue au nom du bon Dieu. Alors lui, c'est sûr qu'il arrive à concilier ça formidablement. Donc on ne voit pas comment, hein. Est-ce qu'il est même à l'état de route ? On va dire au contraire. Et pourtant lui aussi, il est même à l'état de route. Et il y a celui qui tue, pour son intérêt propre, au nom de l'homme. Alors lui, on voit plus. C'est-à-dire que la question fondamentale qui est posée ici, c'est la notion de déterminisme. Le fait qu'un homme soit à la merci de l'autre, c'est un non-pouvoir de Dieu dans la création. On a déjà dit que si nous on devait créer le monde, et qu'on nous avait demandé combien de personnes on peut tuer, on aurait dit peut-être une, peut-être deux dans sa vie. Mais on n'aurait sûrement pas imaginé qu'on peut tuer 6 millions. On n'aurait pas créé un monde comme ça, où la liberté est totale. La notion de liberté, elle est contraire à la notion d'Emouna. Et pourtant, la notion de liberté, elle est fondamentale. On va aller plus loin encore. Est-ce que vraiment j'ai la liberté de tuer ? Il y a un Ramban qui est dans la paracha de Bereshit sur le verset Kol demei achicha tsoakim elai mina adama. Lorsque Caïn a tué Hevel et que Akadosh Baruch Hu lui demande Aïe Hevel achicha, où se trouve ton frère Hevel? Il répond A shomer achi anochi. Suis-je le gardien de mon frère? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, Kol de Me'achicha, la voix descend de ton frère, Tsoakim Elai Mina Adama, crie vers moi depuis la terre. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire de Mei? Pourquoi le sang au pluriel? Elle répond, Damo Vedam Zaro. Il y a son sang. Et le sang de sa descendance. Ça pose un grand problème. Parce que ça veut dire que je peux aller à l'encontre de ce qu'avait envisagé le bon Dieu. Parce que tu me dises que son sang, ça je comprends. Mais si tu parles de sa descendance, ça veut dire que le bon Dieu a prévu pour lui une descendance, quoi, il ne savait pas qu'on allait tuer Evel. C'était pas la peine de prévoir pour lui une descendance. Et si on a prévu une descendance, où elle est partie? Parce que chez le bon Dieu, prévoir veut dire créer. Créer veut dire vouloir. Alors, comment ça marche? Ça, c'est la question du Ramban. Le Ramban, il répond par une autre question. Il dit que Dieu s'est adressé à Nabuchodonosor après la destruction du premier temple et lui a reproché d'avoir détruit le temple et tuer un tellement grand nombre de juifs. Le Ramban demande, dit finalement, à quoi le Minash Hamayim? Tout le Minash Hamayim, si le Beit HaMikdash a été détruit, il fallait qu'il soit détruit. Et c'est vrai qu'à propos du deuxième temple, mais c'est la même chose à propos du premier, et le pire c'est que le prophète Jérémie déjà avait averti, et que on a parlé déjà de Galout avant, pourquoi est-ce que maintenant on vient reprocher à la Nouvelle-Zélande? Alors il donne la première réponse qui est très classique. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu avait besoin de quelqu'un pour faire le sale travail, mais le volontaire n'est pas venu pour exécuter l'œuvre divine. Il est venu pour exercer ou exécuter ses propres desseins. S'il avait demandé au bon Dieu, peut-être qu'on lui a dit non, c'est pas toi. Il est venu de lui-même, puisque tu es venu de lui-même, c'est ton propre choix, et n'invoque pas maintenant le fait que le bon Dieu avait un intérêt, ou qu'il fallait pour l'histoire du peuple juif que le Beth Amidash soit détruit, ou que tant et tant de personnes aient été persécutées. Ça, c'est la première réponse, c'est la réponse classique, mais la Ramban dit une deuxième réponse. Et ça, il faut bien la comprendre. Le Ramban dit, voilà, on lui a reproché à Nabucodonosor She'arag mehem yoter midai. Mot à mot, ça veut dire il a tué plus que nécessaire. Non et mamin anochi Hashem elokecha sherotzeticha me'eretz Yisra'el. Chaque balle à son adresse. Comment on peut tuer plus que nécessaire? Arag yoter midai. Comme si, jusqu'à un certain point, c'était prévu, et à partir d'un certain moment, c'était trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux en faire trop? Le Mirtav Me'eliyahu veut répondre à cette question. Et il dit ceci. Il dit, c'est vrai que quelquefois, un homme meurt sans que ce soit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il amène du Zohar qu'il existe des hommes qui sont à la merci d'autres hommes et ils ne sont pas à la merci d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va essayer de comprendre. C'est bizarre. Autant qu'étrange. C'est pour ça que ça m'étonne qu'on en ait parlé. Donc, on va nous essayer de comprendre. Alors regardez ce qu'il dit. Il existe une notion fondamentale qui est la notion de tchouva. La notion de tchouva, c'est vrai que c'est une bonté de Dieu vis-à-vis de l'homme, mais c'est aussi une nécessité vis-à-vis de l'histoire. S'il n'y avait pas de tchouva, on n'aurait pas pu prévoir la même histoire qui est celle qui a été prévue par Akadosh Baruch Hu au moment où il a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que sans tchouva, ça se passe moins bien qu'avec la tchouva. Donc c'est une nécessité du point de vue de la création, c'est dans ce sens qu'on dit que la tchouva a précédé la création. Sans tchouva, le monde n'irait pas loin. Ok. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup même d'hommes qui ont pu exister et qui ont pu faire l'histoire grâce à l'utilisation de cette notion de tchouva. C'est cette notion de tchouva qui fait que lorsque quelqu'un a fait quelque chose de grave, très grave, infiniment grave, il y a une mida, une des 13 midot, qui s'appelle Erech HaPayim, la longanimité. La longanimité, ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu ne se presse pas pour exercer le din, même lorsqu'il doit être exercé. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là, qui en vérité devrait disparaître depuis longtemps, parce que chaque jour il a son petit karet, ou son petit riou mitat bedin, ou grand, ou petit, je ne sais pas. Il devrait disparaître depuis longtemps. Et il est toujours là. Et il ne fait pas de tchouva. comment ce Erech HaPaim va se manifester. Alors il dit ceci. Chaque homme dans sa vie a fait des mitzvot. Et chaque homme dans sa vie a fait des avirot. Au moment où il est condamné, on va le laisser pour qu'il puisse continuer à faire un Kiddush Hashem qui est en rapport avec les mitzvot qu'il a fait. Selon ce Kiddush Hashem, il peut se manifester de deux façons. On peut faire un Kiddush Hashem lorsqu'on voit comment un juif se comporte. Et on peut faire un Kiddush Hashem aussi lorsque la punition s'abat sur un homme. Que celui qui a fauté disparaisse, c'est une notion de Kiddush Hashem. Que celui qui faute ne disparaisse pas, c'est une notion de Chilul Hashem. Et voilà que notre monsieur, puisque de lui-même il n'a plus droit à la vie, et que de lui-même il continue à ne pas faire teshuva, il va être à la merci du Kiddush Hashem qu'il est en droit de faire et qui lui reste à faire. Et ça peut être de deux côtés. Ou tu fais teshuva et le Kiddush Hashem, il est par la mitzvot que tu fais. Ou alors tu fais pas. Et c'est par le din qui va être fait, ou sur toi, ou sur celui qui t'exécute, qu'on va voir le Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'en disant que quelqu'un est à la merci d'autres hommes, ça veut dire que selon les sruyotes qu'il a, selon les possibilités qui lui restent, il va pouvoir faire ce Kiddush Hashem qui est que celui qui va le tuer lui sera exécuté. C'est aussi un Kiddush Hashem. Il fallait un volontaire. Nous, on a l'habitude de penser que dans le fait d'être une victime, il ne peut pas y avoir de Kiddush Hashem. Mais les cas, on a besoin de deux. Pour que quelqu'un qui tue soit puni, il faut deux volontaires ici. Et puisqu'il faut deux volontaires, alors on va mettre cet homme-là volontaire. Et si jamais il est tué de façon que dans cette mort, il y a un Kiddush Hashem, alors il aura réussi le tahlit, il aura réussi que sa vie et sa mort ne soient pas inutiles. Donc il est à la merci de ce qu'un autre homme peut faire comme un verra. Et c'est vrai que l'exemple le plus frappant, c'est la mort, mais c'est dans tout comme ça. Dans les liens entre les gens et les autres, pour qu'ils puissent avoir des mitzvot, ben Adam, la Havero, on est obligé de créer une histoire et de tisser des fils entre l'un et l'autre. Il y a des victimes, il y a des demandeurs, il y a des donneurs, il y a des preneurs, il y a toute une histoire qui se tisse. Et on a toujours l'impression que la victime, ça n'a pas de sens. Mais rien que pour châtier celui qui s'en est pris la victime a aussi un sens. Ça veut dire que quelquefois, pour que j'apprenne des leçons dans ma vie, ces leçons-là, si elles sont positives, on va appeler ça Kiddush Hashem, j'ai besoin d'une victime. Parce qu'on a besoin de faire des bêtises, on a besoin des autres, pour pouvoir exercer notre libre arbitre. Pourquoi est-ce que c'est l'autre? Parce qu'il a fait telle et telle bêtise, ce qui fait que maintenant il est à ma merci. Et si jamais il est à ma merci d'une façon positive, et que moi j'en retire quelque chose, ou que les autres qui sont autour en retirent quelque chose, rien que de dire, tu as vu l'embêter l'autre, maintenant c'est son tour, rien que pour ça, ça vaut déjà la peine. Ça aussi, ça donne un sens à l'histoire. Alors ça peut être très petit, ça peut être plus grand. C'est que nous, on ne connaît pas du tout les répercussions de nos actes. On croit que les petites choses restent petites, que les grandes choses sont grandes. Souvent, les grandes choses, elles sont très petites et les petites choses sont très grandes. On ne sait pas du tout. On n'a pas besoin d'être psy pour dire que une petite tape sur le dos, ça peut changer la vie. Changer la vie d'un, ça change la vie de tous les autres qui sont à côté. Ça veut dire que la répercussion de nos actes est tellement grande, si on regarde du côté du bon Dieu lorsqu'il crée le monde, qu'on a besoin de gens comme ça. Ça, c'est la mida de Erev Rapaïm. C'est-à-dire que quelquefois on est soi-même en attente, et c'est vrai que quelquefois on se lève le matin en se disant, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? C'est qu'on sent qu'on a la mida de Erev Rapaïm et qu'il va vous arriver quelque chose. Pourquoi? Parce que on sent qu'on s'est mis dans cette situation-là. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, positives, il ne sent pas tellement, quand il se lève le matin, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui. Mais celui dont la vie est un peu en attente, alors il a cette impression qu'après il arrive un bon coup, prend sa voiture, bon, on lui fonce dedans, il dit je savais. Pourquoi? Parce que on avait besoin de quelqu'un qui prenne une leçon de conduite. Il ne faut pas conduire trop vite, il faut bien conduire. On a besoin d'une victime pour lui donner une leçon. Pour lui monter le bonus de l'assurance, pour éviter que la prochaine fois il encore le voisin ou qu'il tue le voisin. On a besoin de lui donner une leçon, alors on va t'utiliser toi. C'est l'ami d'Adere Khapay. Donc tu as la merci de l'autre. Il dit le Mirta, c'est ça le pshat dans le Ramban. Ça veut dire que les relations qu'ont les hommes les uns envers les autres, elles sont 1000 fois, 10 000 fois ou 1 million de fois plus compliquées, et elles ont nettement plus de sens que le sens que nous pouvons leur donner. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a un sens, et on n'arrive pas à le déterminer. Et encore pire que ça. Quelquefois, on a l'impression qu'on vit une scène qu'on a déjà vue, ou qu'on est exactement dans la même position qu'on était à un certain moment, et on n'arrive pas à retrouver exactement cette position. Cette argacha qu'on appelle en hébreu, argacha, ça vient du mot sentir, percevoir, c'est que quelquefois nous-mêmes on perçoit qu'on est dans une position comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas choisi, où on est mis, et on a l'intuition qu'il existe quelque chose de ce genre-là. Viens le Ramban, il nous dit, c'est ça, Erev Rapaïm. Il y a des gens qui dépendent des autres, on dépend de l'autre, on dépend de l'autre là-dedans, on dépend de l'autre là-dedans, on dépend de l'autre là-dedans. Un jour on verra comment le monde entier, tout a été fait avec des ramifications extraordinaires de tous les côtés pour que chaque acte ait exactement de l'autre côté son pendant et que chaque chose se règle exactement sur la volonté divine. Ça, c'est... Ça ne veut pas dire qu'on a échappé à la volonté divine. Ça veut dire que dans une certaine mesure, la volonté divine s'exercera par le libre arbitre de celui qui est en face de moi. Et donc, je suis à sa merci. Il est évident que plus on en fait, et moins on fait de bêtises, moins on a la merci des autres, et plus c'est les autres qui s'en remercient. Donc c'est une attitude dans la vie. L'otir de ça, de comprendre la gravité d'une action, et de ne pas croire qu'on peut éliminer quelqu'un parce qu'il vous gêne, ou éliminer quelqu'un pour des raisons qui sont des petites raisons, parce que il y a une dimension cosmique qui donne mal à la tête si on essaie de réfléchir toutes les ramifications, tous les rapports qui peuvent exister entre tous les humains dans le monde tel que le bon Dieu l'a créé. Quand on fait l'otir tsar, on va à l'encontre de ça. On est maet et tademout. On rend le bon Dieu petit. Bien qu'il ait mon pouvoir, seulement c'est bête de penser que d'être en ton pouvoir, ça veut dire que tu échappes à la volonté divine. Mais d'une certaine mesure, si tu n'arrives pas à aller au fond des choses, c'est vrai. Donc on est maet et tademout. Tout ce qui aide à aller au fond des choses, ça s'appelle un kiddush Hashem. Tout ce qui n'aide pas à aller au fond des choses, ça s'appelle un kiddush Hashem. On va essayer de voir le deuxième commandement. Le deuxième commandement dit Rashi, Lo yelcha que neged lotina. Pourquoi? Shazone achar avilizore, derech isha menaefet, tachat isha, tikach et zarim. Attention. Deuxième commandement, Lo yelcha Elohim acherim alpanaï. Tu n'auras pas de dieu étranger, alpanaï, notamment ça veut dire en face de moi. Quel est le commandement qui va à l'encontre? C'est l'adultère. Il est Rashi, quel rapport entre l'adultère et la avodah zara? Il est Rashi, il y a un mot. Ce mot s'appelle zenout. Zenout, c'est la prostitution. Motamo en hébreu. C'est la prostitution. Zone et achar ou lazara, c'est la déviation. Celui qui a un intérêt autre et qui va vers quelque chose alors qu'il appartient déjà à quelque chose d'autre. Il dit l'adultère, c'est derech isha menaefet, c'est-à-dire le fait d'appartenir à un autre homme, c'est comme celui qui, au lieu de reconnaître Akadosh Baruch Hu, s'en va vers des dieux auquel il ne peut appartenir. On va essayer de comprendre ce qu'il y a. Parce que c'est évident que ça va plus loin que rien que le mot. La avodah zara, c'est une notion qui nous est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que, avec l'éducation qu'on a eu à travers 30 siècles, on n'a plus tellement de rapport avec cet avodah zara. En plus, la Gemara nous dit que les Chachamim ont annulé le Yetzera de l'avodah zara. On ne va pas expliquer exactement ce que ça veut dire annuler le Yetzera de l'avodah zara, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Yetzera de l'avodah zara. Il y a des gens qui viennent et me disent, voilà, Rav, depuis que j'ai fait tchouva, ça va mal. Voilà. Avant, j'avais pas de problème. Maintenant, j'ai des problèmes. J'ai des ennuis financiers, j'ai des ennuis ceci, j'ai des ennuis familiaux, j'ai des ennuis ça, depuis que j'ai fait tchouva. Alors moi, je leur demande, non, alors d'après vous, d'où ça vient? Il y a avant, je ne regardais pas le bon Dieu, il ne me regardait pas, ça allait mieux. Maintenant, je regarde le bon Dieu, il a l'œil sur moi, et je vais payer chaque chose. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui vous disent ça, ils le comprennent, ou ils se sont fait une raison. Ils voudraient juste que tout n'aille pas si vite. Ça veut dire ils veulent bien prier, mais à crédit, pas... C'est bizarre que quelqu'un comprenne à faire pareil. Quelqu'un dit, voilà, depuis que je fais les mitzvot, j'ai des ennuis. Je vois pas le rapport, mais lui, il a compris le rapport. Pourquoi tu as compris ce rapport? Parce qu'il se rend compte que ses valeurs ont changé. Que quoi? Que lorsque je regarde et que mes valeurs, elles sont certaines valeurs, qui ne sont pas celles que j'ai aujourd'hui, j'étais dans un chemin où j'échappais au bon Dieu. Mais comment tu peux échapper? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois vraiment qu'avant, parce que tu ne regardais pas le bon Dieu, tu ne regardais pas comment on peut échapper au bon Dieu? La notion d'avodah zara, c'est ça. C'est qu'on croit qu'on peut échapper à certaines choses parce qu'on va s'accrocher à d'autres valeurs dont on pense qu'elles vont vous protéger du bon Dieu. Lo yelcha Elohim acherim al panai. Al panai, ça veut dire en face de moi, devant ma face, devant moi. Pourquoi marqué devant moi? Lo yelcha Elohim acherim. Pourquoi al panai? parce qu'il n'existe pas de possibilité d'avoir Elohim Acherim et que ce ne soit pas Al-Panaï. C'est toujours un chemin qui est écarté. C'est-à-dire que c'est toujours une valeur de remplacement. Il n'y a personne qui a pu un jour penser qu'une valeur d'Avodah Zara, c'était une vraie valeur. C'était toujours Al-Panaï. Comment ça marche? Ça doit marcher de cette façon-là. Lorsqu'on donne une démesure à telle et telle chose, on croit que on est sous la protection de certaines choses. Donnez un exemple. Aujourd'hui, il y a une espèce d'Avodah Zara qui s'appelle la santé. La santé, et ça fait plusieurs fois que j'observe ça, c'est que des gens croient que parce qu'ils sont en bonne santé, ils sont plus intelligents. Peut-être que ça irrigue mieux le cerveau et qu'on est plus intelligent, mais moi je ne remarque pas. Il en reste que les gens croient que les faits qu'ils sont en bonne santé, ils vont avoir plus de réussite dans les affaires. Ils sont plus performants, ils sont plus intelligents, ils sont un peu plus. Quel est le rapport? On peut avoir de la réussite quelque part et ne pas être en bonne santé. On a grossi démesurément un paramètre qui existe. La santé, c'est quelque chose d'important, de très important. Mais lorsque ça devient très 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 important, ça occulte et ça rend plus petit des choses qui n'ont aucun rapport avec ça. Zar, c'est quelque chose qui est étranger. Tu as grossi démesurément. Voilà, on va donner un exemple. Le soleil, il a une fonction dans la nature. Et il est sûr que c'est une fonction thérapeutique. Il est sûr que ça joue sur plein de choses sur l'homme. Il est sûr que dans la nature, ça a une fonction extraordinaire. Mais pas plus que ça. À partir du moment où on lui attribue toutes les vertus, c'est qu'on a occulté certaines autres choses. Je me tourne vers telle et telle chose qui a de la valeur, mais je lui enlève la proportion normale de valeur qu'on doit lui donner, et je crois que j'ai un refuge là-dedans, alors que ça n'a pas ça. C'est moi qui lui donne cette valeur. Alors on va dire ceci. Sans le soleil, tu n'as pas de récolte. Ok. Sans le soleil, tu n'as pas de santé. Ok. Mais de dire que sans le soleil, il n'y a pas de vie, peut-être que non. Pourquoi on est passé de l'un à l'autre? On est passé de l'un à l'autre parce que c'est pratique, lorsqu'on s'attelle à une chose, de rendre les choses plus petites et de ne pas penser à d'autres paramètres qui existent aussi. Pourquoi? Parce que la bêtise humaine est ainsi faite que lorsque quelqu'un brille dans un domaine, on lui attribue des qualités dans tous les domaines. Tout simplement parce qu'il brille. Ça veut dire que quoi? Celui qui se lève le matin et qui s'est trompé de passement en bourse et qui a gagné, c'est un génie. Pourtant, il s'est trompé, il voulait passer sur autre chose, et son agent de change n'a pas compris exactement ce qu'il a dit. C'est un génie. Et il est presque, je dis presque, persuadé qu'il est vraiment un génie. Parce qu'il a oublié que c'était une erreur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Ben Adam la Chavero, tout ce qui brille, ça occulte le reste. Comme les enfants qui vont vers ce qui brille, vers ce qui réussit, on occulte le reste. On va donner un exemple très simple d'Avodah Zara. Un enfant, lorsqu'il a un jeu, il oublie ses devoirs, il oublie ses frères et sœurs, il oublie ses parents, il oublie tout le monde. Il y a même des enfants qui peuvent tuer parce qu'on ne les laisse pas jouer. Comment est-ce que ce jeu a réussi à tout occulter? C'est qu'on ne prend pas de recul. Pourquoi? Parce qu'on donne une valeur tellement forte à cet instant-là, ou aux possibilités qu'elle vous donne dans cet instant-là, et on oublie tout le reste. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent sur leur santé, et ils ont complètement occulté le reste en pensant que le fait de travailler sur la santé, c'était tellement important que ça donnait des possibilités qui n'étaient pas justes. C'est comme ça qu'on peut comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la Vodazara. La Vodazara, c'est pas de ne pas croire en Dieu. C'est pas que celui qui fait d'abord, il croyait pas en Dieu. C'est que son refuge, il l'a placé dans quelque chose qu'il a vu comme force de la nature. Et il pense qu'en se mettant à l'abri de cette force-là, ça va occulter tous ses problèmes. Donc, cette force-là a la force de résoudre tous ses problèmes. Je ne parle pas de l'argent. C'est sûr que on a souvent des attitudes d'Avodah Zara vis-à-vis de l'argent, en pensant que ça résout tous les problèmes. C'est comme j'avais dit que ça, l'argent, c'est sûr qu'il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue très 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 largement. Et j'ai dit, mais le très largement, ça me suffit. Ça veut dire que on se réfugie derrière quelque chose. Il y a la Avodah Zara de la mitzvah aussi. C'est de croire parce qu'on a fait telle et telle mitzvah, parce qu'on a été capable de certaines choses, qu'on est bon dans tout. On peut être bon dans une mitzvah, et dans le reste on peut être faible. Chaque fois qu'on donne une démesure, cette démesure, elle vient du besoin de refuge qu'on a pour ne pas être obligé de s'attaquer à tout. Ça s'appelle Zara. C'est étranger, tu dévies. Tu vas de côté. Tu as attribué une force plus grande à une chose parce que tu voulais occulter le reste. C'est de là qu'est venue l'idée d'Avodah Zara chez les anciens, qui n'était pas du tout une idée bête, parce que les forces qu'ils attribuaient à la nature qu'ils divinisaient, elles étaient vraiment existantes. Ça m'a constitué un refuge. C'est pour ça que la Gemara a dit « Lo avdu Yisrael avodah zara ela le attir lahem arayot befarisia. » Ce qui les a attirés dans l'avodah zara, les juifs, c'est pas l'avodah zara elle-même. C'est les prêtresses de l'avodah zara. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de faire. Alors, pour pouvoir occulter l'importance qu'elles ont dans mes yeux, je vais me mettre à l'abri d'une valeur qui est tellement grande et qui est tellement vraie que je ne fais plus attention au reste. Lo avdu Israël, avodah zara, c'est bon pour ça. Il y a des choses qu'un juif ne peut pas se permettre. Ça ne fait pas. Ça a l'importance. Mais lorsque tu te livres à quelque chose qui donne une beaucoup plus grande importance, et lorsque tu as trouvé ton refuge dans une idée, le reste, c'est pas important. Ça perd de l'importance. Pour qu'une chose perde de l'importance, on s'adonne à une autre chose. La démesure, c'est ça la Avodah Zara. Lo yé le cha Elohim acherim al panai, c'est ça l'otinaf. L'otinaf, c'est la démesure qu'on accorde à quelque chose. Il y a des choses qui n'ont aucune importance. Si je les place dans le contexte, je n'ai aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas. Mais ça a pris une démesure, parce que c'est un refuge. L'otinaf, c'est ça. C'est que quelqu'un croit se sentir bien. Il est écrit dans le Sforno. Sforno, ce n'est pas une marque d'automobile, c'est un commentateur. Dans la paracha de Kedoshim, il dit ceci. Toutes les interdictions qui ont rapport avec la sexualité dans le peuple juif, c'est parce que l'homme cherche une tendresse, cherche un réconfort, qu'il ne trouve pas, et qu'il a perdu, et qu'il se remémore de lorsqu'il était petit. Et c'est la raison pour laquelle, si la Torah n'avait pas interdit tous les incestes, on se rapprocherait de celui qui vous ressemble le plus. Parce que on occulte la difficulté de vivre avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Et on irait chercher chez sa fille, chez sa mère, chez sa sœur, ce qu'on croit avoir perdu de ce qu'on était petit. Ça veut dire que c'est le refuge de quelqu'un à qui il manque quelque chose. Comme il lui manque, il va chercher ce refuge-là. Et à partir du moment où il a, il est content, il occupe tout le reste. Il est content dans la vie. Il suffit de remettre les valeurs exactes dans leur même sens et c'est plus intéressant. Ça n'est intéressant que parce que cette recherche de tendresse, cette recherche de promiscuité, on va dire aujourd'hui, cette recherche de l'ego est tellement grande que elle peut occulter tout le reste. Derech isha menaefet, c'est quelqu'un à qui manque quelque chose, on ne lui a pas donné ce à quoi elle pense qu'elle avait droit. Alors il va le chercher autre part. Mais ça ne sert à rien d'aller chercher autre part. Ce qu'il faut, c'est de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ça qui s'appelle Alpanaï. Alpanaï, ça veut dire, tu dois rechercher ta façon de te construire pour pouvoir vivre sans ça. Mais d'aller le rechercher, c'est comme si quelqu'un y régressait pour se retrouver en état d'enfant, où à partir du moment où il a un peu de tendresse, il ne pense plus à rien, ça, il a tout oublié. La preuve. Il y a une fois un médecin qui m'a dit, un enfant qui pleure, il a mal au ventre, vous le prenez dans les bras, il s'arrête. C'est pas qu'il n'a pas mal au ventre, il avait vraiment mal au ventre. Et pourquoi il s'est arrêté? Parce que quand il est bien au chaud, ça lui fait tellement de bien qu'il a réussi à oublier qu'il a mal au ventre. Vous le reposez dans le lit. Il a toujours le même mal au ventre. Mais il a plus le bien qui lui fait oublier son mal au ventre. Nous, dans la vie, on cherche ça. Ça, ça s'appelle Zahar. C'est un chemin dérouté pour occulter tous les problèmes de la vie. Lorsque quelqu'un est en manque de ce dont il pense qu'il a le droit de ça, parce que chacun quand même a un petit besoin, qu'on fasse un peu attention à lui dans la vie. Il a un peu besoin de tendresse. Alors, il va le chercher parce que ça a pris une démesure. Lorsqu'on remet les choses en mesure, on n'a plus besoin de ça. C'est pour ça que la Torah interdit ce qui est le plus proche. Plus c'est proche, et plus c'est interdit, ça il va occulter tout le reste. Lorsqu'on réussit dans quelque chose, on se croit à l'abri du bon Dieu, parce que on occulte le reste des problèmes. C'est ça, lo yelcha Elohim acherim al panay. On va essayer de voir le troisième. Lotissa que nege lotignov. Attention. Lotissa. Tu n'as pas le droit de jurer faux en vain. C'est en face de l'otignov. Tu ne voleras pas. Il dit Rashi. Chagonev. Sofo li shava la sheker. On va essayer de voir. Celui qui vole, en fin de compte, il va jurer faux. Vous allez me dire, moi je préfère quelqu'un qui jure faux plutôt que quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui jure faux, il peut se faire du mal à lui-même. Mais en tout cas, il ne vole pas les autres. C'est déjà moins grave. Mais il faut savoir que ce n'est pas vrai. Le non-respect du bien d'autrui, d'où est-ce que ça vient? Il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir que quelque chose appartient à l'autre et qui peuvent mettre les mains dans leur poche, mais pas dans la poche des autres. Ils n'arrivent pas à le concevoir. Ça vient du non-respect, pas seulement de l'autre, mais du non-respect qu'il existe un certain ordre qui doit refléter une certaine vérité. Tu as quelque chose dans ta poche qui ne t'appartient pas. C'est pas vrai. Tu devrais comprendre qu'il n'y a pas de finalité possible à quelque chose qui est tordu. Et c'est vrai que même la Gemara s'interroge à partir du verset Me'uvat lo yuchalitkon. Une chose tordue ne peut pas s'arranger. Comment est-ce que quelqu'un qui a volé une graine et c'est devenu un arbre, comment est-ce qu'il va faire tchouva? Alors on s'arrange avec la tchouva. On lui dit, voilà, cet arbre n'a plus de rapport avec toi. Un jour, le bon Dieu enverra la foudre. Un jour, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta propriété, il va te voler aussi, il va couper l'arbre. Chacun, le bon Dieu s'y remettra des pendules à l'heure. Ok, d'accord, on s'occupe pas de la tchouva. Mais comment tu peux vivre avec quelque chose qui est faux à côté de toi? Un homme doit s'habituer à l'idée du vrai. On ne peut empêcher quelqu'un de s'attribuer le bien d'autrui que s'il a une idée du émettre de ce qui est vrai. Nous, on vit dans un monde de Shaker. Shaker, c'est le contraire du émettre. Ce qui brille, ça vaut la peine. Ce qui est émettre, c'est pas quelque chose qui a une valeur en soi. On doit s'habituer à vivre dans un monde où c'est le émettre qui est la valeur, c'est pas ce qui brille. C'est pas ce qui donne des possibilités. C'est le émettre en soi qui soit la valeur. Jurer, c'est lorsque quelqu'un veut imposer un shaker aux autres. Comment il fait? Il dit, je te jure. Et tu sais que c'est faux. Mais c'est pas grave, par le fait que tu as juré, les autres vont avoir l'impression que c'est vrai, et ils vont plus te croire que si tu dis pas je jure. Et comme l'interdiction en plus c'est je jure par le nom de Dieu, aujourd'hui ça marche plus tellement, on n'ose pas. Ah, il est sur la tête de ta mère, sur la tête de ta mère. Bon, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tu veux prendre une valeur, et comme on va pas penser que cette valeur là elle n'est pas une valeur à tes yeux, tu veux rendre émettre ce que tu affirmes. Celui, non, on aurait dit le contraire, celui qui jure faux, en fin de compte, il va voler. Parce qu'on croit que jurer faux, c'est moins grave. Mais en vérité, c'est éminemment plus grave. Venez pourquoi? Parce que celui qui vole, il sait très bien que même si à ses yeux il a raison, aux yeux de l'autre, il n'a pas raison. C'est un demi yetzer hara. Je sais que devant n'importe quel juge, j'arriverai pas à justifier. C'est vrai que passer devant la société, je peux me justifier pas quand même. Je vais vous dire, moi je vole qu'au riche. Chacun va se trouver une façon. Il ne manque rien à celui-là. Et une fois l'employé de banque, il a réussi à détourner, en détournant les toutes petites sommes de chaque compte, et en prenant tous les comptes de la banque pendant quelques années, il arrivait à des milliards. On lui a demandé, mais comment vous avez compris que ça va mettre des années pour vous retrouver, pour vous soupçonner? Il a dit, parce que lorsque vous recevez votre compte, vous regardez sur la colonne des milliers, la colonne des centaines, si vous êtes radin, mais sur la colonne des dizaines, jamais. Donc si je vous prends 20 francs, 50 francs, en vérité, je ne vous ai rien pris, puisque vous ne regardez même pas cette colonne, elle ne vous intéresse pas. Que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, c'est pas grave. Évidemment que le raisonnement, il est totalement pernicieux. D'abord parce que les dizaines s'ajoutent, et ensuite parce que ce n'est pas ton affaire, si je regarde ou je ne regarde pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait très bien qu'aux yeux de l'autre, la justification, et ça peut être une blague, ça peut être tout ce qu'il veut, mais c'est impossible de justifier. Comment je vais faire pour justifier quelque chose, même aux yeux des autres? Je passe à l'étape supérieure, c'est lorsque je jure. C'est faux, c'est pas le émettre, mais l'autre il va collaborer avec moi parce que, quand je jure, il dit, je meurs si je mens. Il n'y a pas de valeur plus grande que la vie. Qui va pas prendre ça en sérieux? Ah, tu comprends, il a juré. D'essayer, en plus, d'obtenir que le émettre que j'ai tordu, l'autre soit d'accord avec moi, c'est comme si le volet, vous l'obligez à donner la main au voleur et lui dire, tu as raison, je ne regardais pas la colonne des dizaines. Ça, il n'arrivera jamais à me le faire dire. Mais quand il jure, il arrive à me le faire dire. Ça veut dire que j'irai dans son chemin, il arrivera à me convaincre, et il arrivera à obtenir ce qu'il veut obtenir, et c'est comme ça qu'on a défié le Hémet. Tu commences par voler, et après termines par jurer. Mais d'abord, tu commences par voler. Parce que jurer, c'est déjà faire participer les autres à ce que tu sais ne pas être Hémet. Ça, c'est déjà une chutzpa qui vient en deuxième position. Il faut avoir l'habitude de pouvoir avoir son petit émettre bien que les autres ne soient pas d'accord, pour pouvoir après vouloir faire prendre ça par du émettre, pour du émettre par les autres. Sacré, il vient, il dit, voilà, D'un côté, la Torah, elle dit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, tu ne dois pas jurer. Pourquoi? Parce que c'est lui le gardien de ce qui est Emet. Lorsque tu jures faux, tu tords l'idée de Emet qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. Par Dieu. Le véritable serment, c'est lorsqu'on invoque quelque chose de divin, dont on sait que c'est une vérité. Et on veut faire croire que la réalité s'aligne sur cette vérité-là. En fin de compte, celui qui vole, il en arrivera à ça. On va voir le quatrième commandement. Zachor que neged lotane. Sham chalel et shabbat mi'it sheker beboro lomar shelo shabbat beshabbat berishit. Ça, c'est un truc incroyable. Virachi, une chose qu'il faut bien comprendre. D'un côté, il y a marqué lotane bereacha et sheker. Tu n'as pas le droit de porter un faux témoignage. Quel est le faux témoignage qu'on peut porter vis-à-vis du bon Dieu? C'est de ne pas respecter le Shabbat. Parce que celui qui respecte le Shabbat, il témoigne que Dieu ne sait pas reposer le Shabbat. Amchalel et Shabbat, celui qui transgresse le Shabbat, Meit Sheker Beboro, il témoigne faux vis-à-vis du Ribbono Shel Olam. Pourquoi? Chez le Shabbat de Shabbat Bereshit, c'est que Dieu ne sait pas reposer le Shabbat Bereshit. Si vous faites un sondage parmi ceux qu'on ne connaît pas mais qui ne respectent pas le Shabbat, il n'y en a pas un qui va vous parler du bon Dieu. Un, il vous dira c'est le jour du sport. Le deuxième vous dira c'est le jour de ça. Mais il n'y en a pas un qui va vous parler du bon Dieu. Où est-ce qu'on a vu quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat et qui vous parle, est-ce que le bon Dieu, il a respecté le Shabbat de Réchit? C'est-à-dire, est-ce que la création a pris 6 jours ou 7 jours? C'est intéressant. On va essayer de comprendre. Il y a plein de mitzvot dans la Torah. Elles n'ont pas besoin toutes d'une justification. Qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire? Zachor et Yom HaShabbat qui vaut Shabbat quel mikol malartou. Tu vas respecter le Shabbat parce que le bon Dieu, il a respecté le premier Shabbat. Il n'a pas créé. Là, tu n'as pas besoin de te justifier. On ne me dit pas, tu ne voleras pas parce que le bon Dieu n'a pas volé. Tu ne mentiras pas parce que le bon Dieu n'a pas menti. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de me raconter toute une histoire? 6 jours de création, 7e jour, c'est le Shabbat. C'est quoi? Pour bien me faire accepter l'idée du Shabbat? Pourquoi? On va faire le contraire. Pourquoi celui qui est chômeur Shabbat, il témoigne que Dieu s'est reposé le Shabbat? Puisque tu dis que celui qui témoigne, qui ne respecte pas, il témoigne que Dieu ne s'est pas reposé le Shabbat. Pourquoi celui qui est chômeur Shabbat, donc c'est qui témoigne que Dieu s'est reposé le Shabbat? Ça va être répondu. Ah, il faut savoir une chose. C'est que l'idée du Shabbat, d'avoir créé le monde en 6 jours, et qu'il existe un 7e jour qui s'appelle le Shabbat, où rien de nouveau n'a été créé, ça veut dire que, vous savez que nous, on n'arrive pas à concevoir l'idée de création sans une idée de matériaux. Ça veut dire que quoi? Les Grecs pensaient qu'il y avait 4 éléments. Il y avait l'air, il y avait le feu, il y a l'eau, ça fait 3, et la terre. Cette idée n'est pas entièrement fausse, mais peut-être pas dans ce qui est physique. Il y a un problème de savoir qu'est-ce que s'appelle l'air. Bon. Ça veut dire que nous, tout ce que nous voyons dans la création, c'est la terre, elle va produire ceci. Il va pleuvoir. Tous les animaux, les hommes, tout est venu de la terre. On a l'idée de la transformation. C'est que pour nous, la création, c'est qu'il y a le ciel et la terre, il y a des éléments X, 4, 5 ou 10, et après, il y a les transformations. Ok. L'idée du Shabbat, c'est l'interdiction de la transformation. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas transformer plus que quelques petites façons. Je peux dissocier deux éléments. Et je peux associer deux éléments. Je ne peux pas faire plus dans la nature. Je peux un créneau. Je ne peux que faire ça. Vous prenez les 39 travaux de Shabbat, c'est toujours ou dissocié ou associé. C'est jamais autre chose. C'est une transformation de quelque chose, ou par l'association, ou par la dissociation. Tu construis, tu associes. Tu détruis, tu dissocies. Tu écris, tu associes. Tu effaces, tu dissocies. Tous les travaux de Shabbat, c'est ça. C'est une transformation qui vient de la dissolution de deux choses, de la dissociation de deux choses. Il n'y a pas d'autre action qui soit possible. Ça veut dire que il n'existe rien qu'on puisse créer qui ne provient pas de l'association, que ce soit par n'importe quel procédé, d'éléments divers, ou de la dissociation d'éléments divers. Même avec l'atome, pour l'instant, il y a où la fission, la fusion. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a créé quelque chose de nouveau par rapport à... Le Shabbat, c'est de comprendre que tout ce que je crée de nouveau, j'utilise ce qui a été créé de Maas et Bereshit. Je prends en main ce qui a été créé de Maas et Bereshit. Et je vais essayer de prendre ça et de le composer, ou par association, ou par dissociation, ou par d'autres procédés. Mais en tout cas, ce sera toujours des éléments que je ne sais pas où que j'associe. On ne peut pas faire autrement. Il n'existe aucune action sur la nature qui soit autre que celle-ci. À partir de ce moment-là, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu Shabbat Mikol Melarto, ça veut dire qu'il y a un certain moment où on peut vivre sans action sur cette nature-là. Ça doit s'arrêter à un certain moment. La Gemara demande pourquoi le monde a été créé en 7 jours, puisqu'il n'y a que 6 jours où il y a eu du nouveau. La Gemara vient et dit « Ba Shabbat, Ba Menucha ». Menucha, ça veut dire, ça vient du mot « la noire ». La noire, ça veut dire « poser ou reposer ». Vous savez qu'en respirant, c'est une association, et en expirant, c'est une autre association. La vie aussi, c'est ça. Mais nous, on parle de la melacha, de ce que l'homme produit, de produire du nouveau. Lorsque quelqu'un est chômé en Shabbat, ça veut dire qu'il vit d'une façon où il pense qu'il peut exister sans qu'il soit actif dans ce procédé d'association et de dissociation. La menoucha, c'est que le bon Dieu peut avoir toutes les actions qu'il veut dans le monde. Tout vient de sa volonté. Tout se passe comme il était. Mais il n'y a pas de nouvelle création. Il y a un moment où ça s'arrête. Ça s'arrête, ça veut dire qu'on peut vivre avec ça. La notion de repos du Shabbat, c'est pas va te reposer parce que tu es fatigué de la semaine. La notion de repos de Menucha, c'est la notion de cessation. Je dois pouvoir m'arrêter, je dois pouvoir vivre sans qu'il y ait du nouveau. Comment on peut vivre sans qu'il y ait du nouveau? C'est ça, mais en Olam Haba. L'Olam Haba, non, c'est pas exactement ce que c'est, mais on n'est pas obligé de croire que c'est très différent que ce Olam Hazeh. Pourquoi? Parce que il n'y aurait pas de raison que ce soit tellement différent. Mais une chose qui est sûre, il n'y a pas de création, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas d'association, on dit dissociation. En cela, le Shabbat s'est mis dans la Baba. On doit pouvoir vivre avec les acquis. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait créé ce septième jour, ça veut dire que de pouvoir vivre avec l'acquis et de ne pas être obligé de continuer à exercer cette création, ça aussi c'est une création. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une façon qu'un homme de vivre. Ba Shabbat Ba Menucha, ça veut dire que l'homme est ce qu'il est le Shabbat. Dieu a vécu avec l'homme. La Menucha du Shabbat, c'est qu'il a créé, et à un moment, il a vécu avec. Ça, c'est cet instant du Shabbat. Vivre avec, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de créer quelque chose de nouveau. L'homme a été créé, tous les éléments ont été créés, tous les éléments sont créés, tout a été fait. Parce que créer au niveau du bon Dieu, c'est pas associé, dissocié, c'est plus que ça. C'est créer du vrai nouveau. Mais quand même, vivre avec, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu introduit une nouvelle notion dans le monde, qui est celle de vivre sans aucune action sur le monde. À partir du moment où je suis chômé en Shabbat, c'est que je témoigne que le monde ne nécessite pas que l'on s'emploie tout le temps à des créations nouvelles d'associations et d'associations. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de vivre. Il y a une manière de vivre qui fuit en avant et qui est que je dois produire, je dois associer, je dois dissocier, je dois. Et le monde a été créé comme ça. Et s'il a été créé comme ça pendant 6 jours, ça veut dire que tout le monde, tout le temps, il marchera comme ça. À une exception près, le Shabbat. Le Shabbat, il peut marcher sans ça. Moi, je ne suis pas obligé d'exercer vis-à-vis de l'extérieur, de même qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien exercé vis-à-vis de l'extérieur. Comment il a créé le monde en 7 jours? Il a fait que 6 jours de création? Non, il y a une nouvelle création qui est celle de vivre avec ce qu'on a. Je vous dis tout de suite, tout le monde est d'accord que c'est la chose la plus difficile au monde. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit si on a une valeur ou non. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le jour où on est obligé de se retrouver soi. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas d'action vis-à-vis du monde extérieur, c'est quoi la vie? C'est moi. Et c'est le jour où on voit comment on est. Comment on est le Shabbat, comme ça on est en vérité. Ça veut dire quoi? Les vraies aspirations que quelqu'un a, elles sont occultées par les nécessités de la vie. Si on m'empêche de m'adonner à ces nécessités, qui sont les mêmes nécessités qu'avait le bon Dieu, puisque lui avait des nécessités, nous on a des nécessités, ça dure pendant 6 jours, nous c'est toute notre vie, à part le Shabbat. Quand j'ai pas ces nécessités, alors je suis qui? Parce que je m'abris toujours derrière ces nécessités. C'est ça le moussak de Menucha. La Menucha, c'est qu'il n'y a pas de nécessité maintenant. Lorsqu'il n'y a pas de nécessité, on ne s'arrête pas de vivre. On est obligé de chercher en soi de quoi pouvoir vivre. Alors ça dépend des gens. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui étudient, il y en a qui mangent. Chacun, il peut avoir, on peut avoir toutes les attitudes, on peut avoir une, mais on est obligé de retrouver en soi la même attitude qu'Akadosh Baruch Hu. Il a eu au moment de la création, c'est qu'on agit, on existe, on vit, on fait, mais on fait rien. C'est ce qu'on appelle la Menucha. La Menucha, c'est qu'on existe par soi-même. Voilà. J'ai rien besoin de faire, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je fais? C'est un problème. De même que le bon Dieu ne se définit pas par la création des 6 jours, mais par la création des 7 jours, donc par le fait qu'il existe, on dirait même qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin de création pour pouvoir exister, Il n'a pas besoin de produire pour pouvoir être. De même, moi, je dois arriver à ne pas être obligé de produire pour pouvoir être. Alors, sur quoi je vais vivre? Eh bien, sur ce que je suis. C'est le plus embêtant ou c'est le plus difficile des exercices. Et donc, il me dit, qu'est-ce que vous faites le Shabbat? Il dit, moi, j'ai pas le droit de faire ça. Alors, je reste dans le fauteuil. Si quelqu'un peut rester dans un fauteuil, eh bien, il sait qui il est. Il est quelqu'un que si on l'obligeait pas à faire ça, eh bien, il serait dans un fauteuil. Si quelqu'un obligé de comprendre, obligé d'apprendre, obligé de savoir, eh bien, il prend son chumash, il prend sa gemara, il y a quelque chose à faire. Il ne s'ennuie pas. Si quelqu'un il aime recevoir des gens, il aime bien parler, il aime bien discuter, il est quelqu'un. Il y a une valeur à ces choses-là. Tu es tout de suite, on peut tout dénaturer. Pourquoi? Parce qu'on est toujours libre. Le bon Dieu ne vous donne jamais de contraintes qui soient trop fortes pour qu'on ne puisse pas échapper à la lettre par un autre esprit. On peut boire tout le Shabbat. On peut même se saouler déjà 8h du matin, comme ça passera plus vite. On peut tout faire. Il en reste que celui qui ne se supporte pas, il ne peut pas se supporter le Shabbat. Lorsque le bon Dieu a créé le monde, c'est vrai qu'il y a une fuite en avant nécessaire, même de sa part pendant les 6 jours, qui nécessitera une fuite en avant de notre part aussi pendant 6 jours. Mais il y a un moment où tu es obligé d'exister. Ça, on appelle ça la menorah. Parce que les gens ne comprennent pas, ils vous disent le repos. Le repos, ce n'est pas une nouvelle création. Ouh là là, c'est une tellement nouvelle création de vivre. Et de vivre sans apport extérieur qui serait cette fuite en avant, que c'est ça le Shabbat. Lorsque je suis chômeur Shabbat, c'est que j'ai trouvé qu'il existe cette nécessité et que le bon Dieu en lui-même, il est quelque chose sans la création qu'il a faite. Et moi qui dois lui ressembler, et moi qui fais partie de ce projet, je dois exister sans la fuite en avant qui est nécessaire pour pouvoir vivre. On ne peut pas vivre sans feu, on ne peut pas vivre sans créer, on ne peut pas vivre sans transformer. On est obligé, parce qu'on est obligé d'avant, on est obligé de construire. Mais on ne doit pas se définir uniquement par ça. On est obligé d'avoir une autre définition de soi-même. Ça peut être le produit de ça, comme le 7e jour peut être le produit des 6 jours. Ça qui est marqué, Miché Tarach et Reb Shabbat, Yoral de Shabbat. On doit pouvoir préparer, mais on doit pouvoir exister. Exister, ça veut dire se sentir bien avec soi-même et pouvoir être positif, avoir quelque chose de plus du fait de vivre. C'est ça ce qu'on appelle la édoute. Ça tu témoignes et ça tu témoignes pas. Donc celui qui ne sait pas ce que c'est le Shabbat, c'est pas de lui qu'on parle. On parle de celui qui n'est pas chômeur Shabbat de Mézil, c'est-à-dire, il connaît la valeur du Shabbat, on lui a expliqué ce que c'est le Shabbat, il ne le fait pas. Alors celui-ci, il ne sent pas cette nécessité, il n'éprouve pas ce besoin, il ne pense pas que c'est une donnée immuable, puisque le bon Dieu lui-même a trouvé important de créer le monde en 7 jours, en créant une nouvelle donnée qui s'appelle la Menoucha pendant le 7e jour. Ça veut dire, tu es méide, que ça ne se passe pas comme ça. Tu témoignes que ce n'est pas comme ça que les choses sont. Il est tard, on va terminer. Ouais. Après. On va terminer. Kabed keneged otachma. Shachomed sofolov lolid ben shemakli oto umechabed mishenavi. Kabed et avicha et imecha, tu honoreras ton père et ta mère. Vous savez qu'honorer le père et la mère, ce ne sont pas des commandements ben adam le chavero entre l'homme et autrui, mais c'est un commandement entre l'homme et Dieu. On a déjà dit que ça ne fait même pas partie des mishpatim, ça ne fait pas partie des lois que l'on comprend et qui viennent du mot shofet, qu'on juge bonne ou mauvaise, ça fait partie des chukim. Pourquoi? Parce que l'alakha est qu'on n'a pas besoin de respecter ses grands-parents. On a besoin de respecter que ses parents. C'est seulement midrabanan qu'on doit respecter ses grands-parents. Ou seulement parce que les parents vous demandent de respecter les grands-parents. Si c'était Beladam Lachavero, de même que je dois mes parents ma vie, eux-mêmes ils doivent leur vie aux grands-parents, donc je leur suis autant redevable que mes parents à la vie. Donc je devrais avoir l'obligation de Kabbalat Avicha envers les grands-parents. Or, elle n'existe pas bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas les respecter. Mais ça veut dire que la relation que j'ai avec le père et la mère, c'est une relation qui est commandée par Akadosh Baruch Hu. Mais on va dire plus que ça encore. Il est possible que je ne doive respecter mon père et ma mère que pour une raison. Parce que celui qui dit à son enfant, tu me dois ceci, tu me dois cela, il s'attire toujours une bonne réponse. Je t'irai demander, voilà. Et c'est une bonne réponse. Et la réponse, elle est très simple. Tu m'aurais demandé, mais maintenant tu apprécies. Ça, c'est pas de ta faute. Que j'apprécie, c'est mon problème. Donc c'est quelqu'un qui l'a rien demandé. C'est vrai que maintenant il apprécie. Mais ça, hein, le fait qu'il apprécie, c'est pas le problème de l'autre. C'est son problème. Donc celui qui base le Kivouda VM sur le fait que je t'ai fait une tova et tu me dois parce que était là grâce à moi, et là... je parle pas des accidents. Donc mais m'aider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est marqué qu'il y a Shlosha Shutafim Ba'adam. Un homme est le résultat de trois associés. C'est en tant qu'associé à Akadosh Baruch Hu que les parents méritent le Kavod. C'est une notion qui est très difficile à comprendre. Parce que vous savez que, comme toujours, le monde, entre parenthèses, est mal fait. Il y a ceux qui en veulent beaucoup et qui n'en ont pas, et ceux qui en ont pas et ceux qui en ont beaucoup et qui n'en veulent pas. Il y en a beaucoup qui se passeraient de cette association avec le bon Dieu. Ils disaient, qu'est-ce qu'il avait besoin de passer par là ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. C'était pas la peine. Mais il en reste qu'il a jugé bon d'associer. C'est pas simple de s'associer au bon Dieu. C'est pas simple de faire partie de la création. Parce que l'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme a la possibilité de créer. C'est vrai en association avec le bon Dieu, mais il a quand même la possibilité de créer. C'est vrai qu'il a besoin d'un associé, c'est vrai. Même pour vivre, on a besoin d'associés. La preuve, quand l'associé s'en va, c'est la crise cardiaque. Donc on a toujours besoin d'associés. Mais là, on le voit. Shlosha Shutafim chez Baalam, ça veut dire que finalement on est associé d'Akadosh Baruch Hu dans l'œuvre du Bereshit, puisque on est créateur aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que l'enfant doit respecter ses parents parce qu'ils sont créateurs. Même si c'est créateur de lui ou créateur d'un autre, c'est pas tellement important. Évidemment, j'ai pas besoin de respecter les parents des autres, surtout mon voisin de palier dont j'ai aucun respect pour lui, entre parenthèses. Alors on me demande mes parents parce que j'ai une relation avec ce créateur-là. Mais c'est pas du tout la Torah, ben Adam la Chavero, c'est comme si quelqu'un t'a fait une Torah, alors que tu es obligé de lui rendre la Torah. Ça n'a aucun rapport avec le qui vous a fait. Rashi vient, il me dit, l'otachmod. Vous savez que l'otachmod, ne pas désirer le bien d'autrui. Le bien d'autrui, l'otachmod, c'est la plus grande difficulté. Je sais pourquoi. Parce que, même si ce n'est pas l'otachmod vraiment, c'est ce qu'on appelle l'otitave. Enfin, c'est marqué l'otitave. Tu ne désireras pas. Parce que l'otachmod, attention, on parle de celui qui a pris par force, mais qui paye. Ou alors celui qui insiste. Je viens m'acheter une BMW, il y a le copain qui vient, il me dit combien tu me la vends, combien tu me la vends. Ils vont voir les copains, à la fin je vends tellement assez de jour. L'otachmod. Mais l'otachmod veut dire aussi, ne pas convoiter. L'otitave est convoité. Même si tu passes à côté de chez lui chaque fois. T'as vu ce qu'il a, ce qu'on veut. Comment on peut demander à un homme de diriger ses pensées et de ne pas convoiter? Je crois que c'est impossible. On peut me dire, ne fais pas. On ne peut pas me dire que ça ne me ferait pas plaisir d'avoir la BMW. Comment on peut obliger l'homme à ne pas convoiter? Il y a dans un séfer qui s'appelle Beta Lévi. Il dit ceci. Il y a quelqu'un qui se trouve sur un pont en danger de mort. Il n'a pas donné cet exemple-là, mais il y a un avion de touriste qui passe. Il se dit, tiens, c'est pas mal cet avion de touriste. Il pense à autre chose. Le juif, il doit être dans une relation telle avec Akadosh Baruch Hu que ça doit pouvoir devenir naturel pour lui de ne pas penser à certaines choses. Et il donne l'exemple de la Gemara, Icar enomita velo batmeler. Un paysan, il veut beaucoup de choses dans la vie. Mais de se marier avec la princesse, il rêve même pas. Ça veut dire quoi? Il n'est pas métallé. Ça l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement pas pour lui. Il a tellement pas de rapport avec ça. On te demande que vis-à-vis du bien d'autrui, vis-à-vis de la vie d'autrui, ce soit tellement pas ton affaire et que tu aies tellement pas de relation avec ça que tu puisses même maîtriser ta pensée. Parce qu'il y a des moments où on la maîtrise malgré nous. Pourquoi? Parce que c'est important. Ah, quand c'est important, tu vois que tu arrives. Il faut se mettre dans cette position. C'est tellement important que l'autrui, il est là pour les rapports que j'ai avec lui. Mais en vérité, je dois le voir comme s'il n'existait pas. Ça veut dire que ce bien d'autrui, cette chose d'autrui, dont les gens peuvent courir toute la vie, rien que pour avoir, ils sentent qu'ils passent à côté de leur vie. Et c'est tellement important, c'est comme si devant un gouffre. Devant un gouffre, tu contrôles tes pensées formidablement. Là aussi, tu dois pouvoir contrôler jusqu'au point que tu t'appelles un Icar, tu es un paysan, face à Abat Melech, à la princesse. Ça, c'est l'interdiction de l'autre. Ce qui existe chez l'autre, ça n'a aucun rapport avec ta vie. Et c'est de voir ce que tu as toi et ce que tu peux avoir toi. Mais quel rapport avec les besoins et les droits et les satisfactions, les possibilités des autres? Ça n'a aucun rapport avec toi. Les autres sont là pour leur vie. Viens, il me dit, voilà. On rentre dans les problèmes des Kibbouda VM lorsqu'on prend une part là-dedans. Mes parents, je veux les respecter. Si je commence à juger et je commence à voir les rapports que j'ai avec eux, c'est le non-Kibbout. Pourquoi? Si j'ai tel défaut, vous croyez que c'est venu comme ça? Ça va dépendre. Si j'ai telle et telle chose, telle frustration, ça va dépendre. Si j'ai tel ceci, ça va dépendre. Si j'ai tel cela, ça va dépendre. C'est évident que c'est comme ça. Non seulement ça vient des parents, c'est que le mimétisme chez l'homme est tellement grand que non seulement il adopte les attitudes, mais il adopte même les valeurs sans s'en rendre compte. Et quoi qu'on soit juge, quoi qu'on soit critique, quoi qu'on soit rebelle, la preuve qu'on a adopté les valeurs, c'est qu'on est rebelle contre elle. Pourquoi tu es rebelle? Puisque l'autre, il n'existe pas chez toi. On se permet d'avoir une relation qui n'est pas celle qui est normale avec les parents. Il dit, là, je dis, voilà. Celui qui a l'habitude de regarder là où c'est pas chez lui, c'est exactement la même attitude que celui qui n'arrive pas à respecter ses parents. Pourquoi? Parce que la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à respecter, c'est parce que tu rentres dans un domaine qui ne t'intéresse pas. Et c'est la chose qui est la plus difficile au monde. Et c'est comme ça qu'on s'habitue à ne pas juger les autres, quand on s'habitue à ne pas juger ses parents. Parce que d'être mohabbet quelqu'un avec qui vous vivez et avec qui vous pouvez objectivement faire mille reproches, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit plus sali que le voisin. Il n'y a pas de raison qu'il soit le meilleur. Parce que lorsqu'on est petit, on est sûr qu'on a la meilleure maman, la meilleure papa. Mais à partir du moment où on grandit, on se rend compte que soit aussi, on est quelque chose. Soit même on est quelque chose. Et peut-être qu'on vaut plus que. Et peut-être de se mesurer à ça, il ne faut pas toucher. Le kavod qu'on doit, encore une fois, ce n'est pas de l'amour qu'on doit. Il y a marqué d'une part, le hafta, tes parents. Il y a marqué kavod, où il y a marqué tira, craindre. Craindre, ça veut dire fais attention. Ne touche pas à un domaine qui ne t'appartient pas. Un homme doit être habitué depuis sa prime enfance. Le kavod, ça veut dire tu dois respecter quelque chose et tu n'as pas le droit de rentrer dedans. Même si tu as raison, même si tu as, c'est pas ton affaire. Il y a une limite et c'est ce qu'on appelle le respect. À partir du moment où j'adopte cette attitude de kavod, il est tout à fait normal pour moi de comprendre qu'il y a des choses qui sont de mon domaine et des choses qui ne sont pas de mon domaine. C'est la même attitude que le Talmud. Quelqu'un doit voir sa vie et il ne doit pas voir. Quelqu'un peut faire une psychanalyse et on va lui raconter d'où viennent tes parents. Il doit pouvoir être mohabbet. Quelqu'un doit pouvoir voir un père ivrogne. Il doit pouvoir voir tous les vies chez ses parents et il doit pouvoir être mohabbet. Pourquoi? Parce qu'il n'existe personne qui n'a aucune valeur. Et puisqu'il existe une quelconque valeur, il est obligé de mohabbet. Un jour, on a demandé, c'est un rocher qui s'appelait Borber Lebovitch, on lui a demandé, comment est-ce qu'on peut respecter un père communiste? Parce qu'à ce moment-là, il y avait ceux qui partaient du côté des communistes. Et ces communistes-là, malheureusement, ce n'étaient pas des enfants de cœur. C'était la répression. Et la répression, ce n'était pas avec les mains, c'était avec les balles. Alors les enfants sont venus demander comment un père qui est devenu, comment est-ce qu'on peut le respecter? Ah, il a dit, il n'existe personne qui n'ait pas une qualité. Il a dit comment? Mon père, c'est un voleur, c'est un rotzer, c'est un assassin, c'est un... Où est la qualité? Alors il a répondu, il est fidèle au Parti communiste. Ça aussi c'est une qualité. Respecte-le pour ça. Il est fidèle à ses amis et il est fidèle à ses idées. Il n'existe personne qu'on puisse pas respecter. Tu dois chercher de quoi pour le respecter. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je suis obligé moi-même de m'imposer des barrières, des limites qui font que je dois provoquer mon respect. Parce que je dois le respecter. C'est un shoot of the Kadogoku. Toi, tu ne fais pas partie de son monde. Lui, tu ne dois pas jouer dans la cour des grands. Il y a les grands, et toi, tu es le produit. Ne t'intéresse pas aux grands. C'est deux mondes différents. Ah, tu ne remarques pas que c'est deux mondes différents? T'as un problème. C'est à toi d'essayer de voir en quoi quelqu'un a une qualité, n'importe laquelle, et qu'il faudra que tu es obligé. Ça veut dire que la question est, quelquefois, c'est honteux de respecter quelqu'un qui n'est pas respectable. On ne te demande pas de le respecter parce que toi, tu penses. On te demande de trouver même là n'importe quelle qualité qu'il puisse faire, que ce soit respectable. C'est ça que le Midrash ramène, le Machal, un homme dont le père était ivre. Tous les soirs, il revenait sous. Un soir, en revenant du Beit HaMidrash, il a trouvé un sou qui était dans la rue. Il était dans la vomissure, dans la salissure. Alors il a amené son père, il a dit, papa, tu as vu? Regarde ce que c'est qu'un homme qui se soupe. Alors qu'est-ce que son père a fait? Il s'est mis à côté du sou. Il lui a dit, dis-moi où est-ce que tu t'es procuré du si bon vin qui sent tellement bon. Ça veut dire qu'on peut avoir un père comme ça et on doit pouvoir le respecter. Pourquoi? Parce qu'il aime le vin qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et ça aussi, c'est quelque chose. Il dit, mais ça devient ridicule à la fin. Ça devient ridicule, mais ça ne doit pas empêcher que dans ta tête, il doit y avoir deux séries. Il y a la série des grands et la série des petits. Les petits ne se mêlent pas aux grands. Pourquoi? Parce que l'autre, il est associé avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas la même cour de récréation. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Trouve n'importe quelle raison qui soit bonne pour que tu arrives à ce carreau, mais tu es obligé d'y arriver. Tu dis, mais comment tu peux me demander des compartiments dans la tête? Tu dois pouvoir vivre une vie à côté de quelqu'un qui a sa vie et elle ne te regarde pas. Et on s'aperçoit que la santé mentale de n'importe quel enfant, elle passe par ce carreau-là. Que n'importe quel enfant, il est obligé d'avoir ce sentiment de carreau vis-à-vis de ses parents, parce que sinon, il se permet de juger des choses qui le perturbent. Pourquoi? Parce que tu es un petit et tu ne dois pas jouer dans la cour. Mais les mêmes quelqu'un, ça te ramène midi. Celui qui vit avec des parents qui n'arrivent pas à être mohabed, yeler limdina acheret, il est obligé de déménager dans un autre pays pour ne pas être auverna vera de kiboudavel. Pourquoi? Parce qu'au moins, il n'ira pas à l'encontre. Ah, il ne pourra pas le faire parce que c'est loin, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais au moins, il sera honnête, il sera en cas de force majeure. Mais il n'a pas le droit d'affronter ses parents. À ce point-là, il dit le Rambam, il est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans la tête, on doit pouvoir les compartiments qui font, qu'il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. C'est pas notre affaire. Et même si on est obligé de juger les gens, parce qu'on doit les juger, on ne peut pas toujours passer en disant tout est bon, tout est bon, tout est bon, à la fin on devient bête. Donc on est obligé de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. On est obligé de juger les gens. Pas dans la personnalité, moins dans leurs actions. Tu peux pas, tu t'écartes. Mais tu es obligé de t'entraîner. Celui qui arrive à comprendre qu'il y a des compartiments, l'Otahmod, alors il a une valeur avec l'autre. C'est ça que Rashi dit, il va très loin. Il cite la Gemara. Il dit celui qui est Chomed, on parle là-bas Chomed Eshet Re'echa, la femme du voisin, alors il aura un jour un enfant, et cet enfant, il va être ouvert sur le Kibbutz, il va transgresser le Kibbutz. Parce que le fait de ne pas pouvoir se restreindre à ses propres biens ou sa propre pensée, ça fait que ses propres enfants, ils ne pourront pas se restreindre et qu'eux, ils auront des problèmes de qui vous devez. Mais il n'y a pas plus grande difficulté à être mechabed quelqu'un dont on sait qu'il était chomel les autres. Parce qu'un enfant, on peut lui demander tout. Mais la chose la plus difficile au monde, c'est que s'il voit que dans ces choses-là, ses paroles ne sont pas correctes, on a tout cassé. C'est presque impossible qu'un enfant, il soit mechabed. Ça veut dire qu'un enfant, son père peut être en prison, il est mechabed autant. Son père peut être ceci, il est mechabed autant. Mais si dans ces choses-là, il n'est pas comme il faut, hein, à ce moment-là, on a cassé ce qu'il y a de sacré entre le père et le fils. Si le père, dans ces choses-là, le fils remarque que là, il se conduit mal, à ce moment-là, le respect est cassé. Parce qu'on peut dire, associé à Kadosh Baruch Hu, machin, mais... Donc celui qui est chomed, et celui qui, au lieu de s'occuper de son épouse, s'occupe de l'épouse du voisin, alors un jour, il aura un fils qui ne pourra pas faire le kibbutz. Il ne pourra pas parce que, avec toutes les raisons du monde, il n'arrivera pas à regarder son père comme jouant dans la cour des grands. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Un père, il peut être criminel, il peut être mon crabe de l'auto. Mais un père qui, dans ces choses-là, se conduit mal, à partir de ce moment-là, les enfants ne peuvent plus avoir de relations saines vis-à-vis d'eux. Il mêle. Rachid vient, il dit ça le pchat, je crois qu'il est très bas. Teometzvia, ce qui est marqué, Teometzvia, c'est que, on a l'impression que dans les Luchot Abrit, il y a un côté qui s'appelle Ben Adam Lamakom, l'autre côté qui s'appelle Ben Adam Lachavero. Si on regarde pourquoi ça a été passé l'un face de l'autre, on se rend compte que la nature des choses dans les deux, l'expression, elle est différente, mais en vérité, la avoda, la façon dont on doit travailler pour arriver, elle est la même. Ok, allez-y, allez-y. Ouais.
Pour revenir à Shabbat et à Emel. Shabbat, vous avez dit l'idée de création, le concept de création pour l'homme, c'est toujours une association ou une dissociation. À l'évidence, pour ce qu'on appelle improprement la procréation humaine, ce que j'appelle plutôt la reproduction humaine, c'est aussi là, jamais une vraie création, c'est une association. Or, cette association est permise pour Shabbat. Et je crois, après que vous m'avez donné la réponse, quand on a parlé justement du kavod pour les parents, est-ce que c'est justement permis cette procréation humaine, Shabbat, parce qu'on peut là être dans le Bereshit du fait qu'on devient parent ou pas? Pourquoi est-ce que là c'est permis? Et deuxième question, qui n'est peut-être pas tout à fait liée, c'est le Emet. Quand vous avez parlé du Emet, vous avez dit cette recherche du Emet, je ne dis pas à tout prix, mais allant jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment, de faire de la Vodazara du Emet aussi? Est-ce qu'on ne doit pas s'arrêter dans la recherche du Emet?
Alors, je vais répondre à la deuxième question en vitesse. La limite de la recherche du Emet, c'est le Shalom. Pourquoi? Attention, pourquoi? C'est pas parce que la fin justifie les moyens et que... C'est que le vrai Emet... C'est le Shalom. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Il y a un Emet où on compare un étalon. C'est vrai ou c'est faux? Mais il y a un Emet supérieur. C'est que chaque chose, elle s'articule, parce que chaque chose a un but. Et même si ça coince du point de vue du Emet, le Shalom, c'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui est plus Emet. Parce que quand il y a la bagarre, il y a rien ne peut être, on va dire, plus émettre que l'existence de chacun. Mais attention, il faut aussi voir dans quel sens et comment, parce que c'est vite fait, commencer les gens, ils disent toujours, on n'a même plus le droit d'émettre des opinions à cause du shalom à la fin. Il faut aussi voir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a marqué dans le verset, à émettre va shalom à chaque coup. C'est que le émettre et le shalom s'embrassent. Mais si c'est toujours le shalom qui étouffe le émettre, là, ça n'a plus non plus. C'est vrai que si c'est toujours le Emet qui étouffe le Shalom, ça ne va pas non plus. Donc il faut essayer de trouver pourquoi, parce que le but du Shalom, c'est aussi le Emet. Mais je vais vous dire, dans l'histoire de la procréation, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. C'est que même dans Shabbat, il y a une halakha.